Stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop. Lock people up in your cages leaves me in such a rage, and I just wanna stop, stop, stop you from being a cop, 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 cop. Stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop. You could just quit your job, just walk into the office, say this job is awful, but you enjoy your disproportionate powers over life and death. Stop being a cop, 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 cop. Stop, stop being a cop, 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 cop. Stop being a cop.
Radio.
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 Pirate!
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Pirate et nous vous accueillons comme chaque lundi pour notre émission Les gens qui bossent. Ce soir, on va parler d'une profession sous le feu des projecteurs et des arrêts de la Cour de cassation. J'ai nommé les livreurs et les livreuses à vélo. Ce métier s'est réellement popularisé ces dernières années par l'arrivée des plateformes de livraison de repas à domicile comme Deliveroo, Foodora et Uber Eats. Toutes ces plateformes ont recours au statut de micro-entrepreneur. Un statut bien pratique pour ne pas payer de cotisations sociales ou, par exemple, les heures d'attente de commandes des coursiers. Lors du premier confinement, ainsi que lors du second, les livreurs et livreuses ont été considérés comme des travailleurs essentiels, alors que les protocoles sanitaires étaient encore inexistants pendant le premier confinement. Ce qui était vu au départ comme un simple moyen de se faire de l'argent de poche est devenu un métier à part entière, même s'il n'a pas du tout été reconnu comme tel. Cette branche de la livraison voit également apparaître beaucoup de travailleurs et de travailleuses sans papier qui n'ont pour beaucoup que cette option pour ne pas mourir de faim. Ainsi, les plateformes profitent de cette main-d'œuvre pas chère sans pour autant, comme ailleurs, leur donner la possibilité d'avoir des papiers. On l'a vu récemment avec la lutte des travailleurs de Frichti qui a mis en lumière ce phénomène. Face à la précarité grandissante des livreurs et des livreuses, des contestations s'organisent pour demander de meilleures conditions de travail et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Pour cela, je suis accompagné de Marlène. Bonsoir Marlène.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Circé.
Et de Arthuret, coursier à vélo et syndicaliste CGT, des livreurs à vélo de Gironde. Bonsoir Arthur.
Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité ce soir.
C'est avec un grand plaisir. Installez-vous bien, on fait une courte pause musicale avant de parler exploitation en roue libre. Mais avant ça, nous vous proposons une capsule sur la situation des violences conjugales qui explosent en ces temps de confinement.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Thank you.
Radio.
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 Pirate.
Vous êtes toujours sur Radio Pirate. On vient d'écouter le remix de l'international des Toasted Tomatoes. Aujourd'hui, dans Les gens qui bossent, on va se consacrer au sujet des livreurs à vélo, des plateformes de livraison. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Ray. Bonjour Arthur.
Bonjour Circe.
Est-ce que tu peux te présenter un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, on se doute que tu es livreur à vélo.
Eh ben, je suis livreur à vélo depuis quasi 5 ans maintenant. Je suis aussi secrétaire général du syndicat des coursiers à vélo de la Gironde, à la CGT. Et ça m'a valu le droit d'être viré par la plupart des plateformes pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je travaille pour la coopérative Coursier Bordelais, et dans lequel je suis toujours livreur, avec des collègues, cette fois salariés.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es venu à... Enfin, comment t'as commencé à être livreur à la base, qu'est-ce qui te paraissait intéressant? Et puis après, comment ça s'est dégradé? Tu dis que tu t'es fait virer par quasiment toutes les plateformes.
Pour faire court, en gros, j'ai fini mes études à Paris. Je suis descendu à Bordeaux pour trouver du travail. J'en ai pas trouvé. Et j'avais besoin d'argent. J'avais plus de dettes que d'argent de côté. Et j'en parlais à un ami qui m'a dit que ça serait pas mal si je postulais à Deliveroo parce qu'il recrutait très rapidement. Donc j'ai juste envoyé un mail en disant que j'aimais bien manger et que j'avais un vélo. Et 3 jours plus tard, je commençais à travailler à Deliveroo où je suis resté livreur à plein temps pendant plus d'un an. Et la situation s'est dégradée au bout de, on va dire, 6-7 mois, au moment où il y a une société concurrente de Deliveroo qui coule du jour au lendemain, qui s'appelle Take It Easy, et dont tous les travailleurs étaient des micro-entrepreneurs. Et c'est là, en fait, on a vu des centaines de collègues rien qu'à Bordeaux. C'est là qu'on a vu la précarité de notre métier, quand on les a vus perdre leur travail et ne pas se faire payer leur dernière semaine de travail. Et quand ils ont commencé à se faire recruter par Deliveroo, là, Deliveroo, on a profité pour changer les conditions de travail de manière complètement autoritaire. Et c'était tout le temps pour dégrader les conditions de travail, évidemment, pas pour les améliorer. Et donc, avec des collègues, à ce moment-là, on a décidé de se regrouper à la base pour monter un collectif. Et puis, au final, avec quelques autres collègues, on a décidé de monter un syndicat à la CGT en mars 2017, je crois.
D'accord. Et du coup, ça ressemble à quoi justement, de monter un syndicat dans les plateformes? Est-ce que le format classique syndicalisation et grève est aussi efficace que dans d'autres entreprises, ou est-ce qu'il faut s'adapter au format des plateformes?
Il faut s'adapter. On n'a pas de solution magique qui fonctionne encore. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter. Par exemple, sur les outils de communication, donc on doit beaucoup utiliser des outils comme Telegram, WhatsApp, tout simplement parce que notre lieu de travail, c'est la rue. Et les cercles de livraison dans les villes, dans les métropoles, est de plus en plus grand, en fait. Ce qui fait qu'il y a énormément de nos collègues qu'on va jamais croiser. Il y a des horaires d'ouverture qui deviennent assez larges. À Paris, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Bordeaux, c'est bientôt le cas. Ce qui fait que, en fait, on a plein de collègues qu'on va pas forcément croiser. On est énormément. Et après, il y a le fait que le droit syndical dans l'uberisation, il n'existe pas. C'est-à-dire que dans la loi, depuis la loi travail d'El Khomri, on est cité, en fait, on est nommé pour la première fois dans une loi, en nous nommant les travailleurs de plateforme, ou autrement, c'était les travailleurs indépendants économiquement dépendants. Donc voilà, des termes un peu désuets qui montrent bien la gêne qu'il y a pour le gouvernement, enfin les gouvernements successifs à accepter l'ubérisation, qui est plutôt dans une position illégale sur le traitement de leurs livreurs. Mais donc en fait, on est juste nommé sur une loi, et on nous dit qu'on a le droit de faire grève, qu'on a le droit de monter des syndicats, mais les lois n'ont absolument pas explicité quelles allaient être les modalités de représentation chez les plateformes. Donc par exemple, moi, le moment où on a créé le syndicat et dont j'ai été le secrétaire général et on a commencé à le mettre dans les médias, j'ai été viré. Et viré pour les plateformes, c'est juste on te change ton mot de passe et tu reçois une lettre en recommandé le lendemain ou le surlendemain et on te dit que c'est fini, quoi. Et donc voilà, ça rend les choses un peu... ça rend les choses un peu compliquées parce que ben, les plateformes ou le gouvernement ou les entités avec lesquelles on voudrait négocier ne nous reconnaissent pas en tant que représentants légaux.
Ça, ouais, ça change carrément. Enfin, ils vont pas vous filer un local syndical, ça paraît assez évident. Et pendant le confinement, ça a changé des choses. Pendant le premier confinement, déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour les livreurs à vélo? Enfin, quelle est la situation pendant le premier confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pour les livreurs?
Il s'est passé que c'est resté à peu près la même chose, quoi. Sauf qu'on était les seuls à être dans la rue et que on était vachement plus visibles pour des caméras qui avaient encore le droit de traîner dans la rue ou les quelques personnes qui allaient faire leurs courses. Mais sinon, au-delà de ça, nous on était un peu condamnés à travailler, surtout au début du premier confinement, où les aides du fonds de solidarité n'étaient pas clairement débloquées, avaient des règles un peu strictes pour pouvoir l'obtenir, quoi. Et donc, en fait, on était dehors, pour la plupart, beaucoup encore obligés de travailler. Les plateformes ont fait croire que ça a été une explosion de commandes pour elles et que le marché a explosé, qu'on a tous réussi à se faire de l'argent sur le terrain. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout eu cette explosion de commandes et que les temps d'attente à l'extérieur ont été encore assez nombreux pour beaucoup de travailleurs. Ce qui s'est passé dans la deuxième partie du premier confinement, où les aides de l'État ont été étendues pour les micro-entrepreneurs et avec des conditions un peu moins strictes, là en fait il y a eu vraiment une séparation, c'est-à-dire que les travailleurs qui travaillent sur leur compte et qui donc faisaient leur déclaration à l'URSSAF ont pu bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. Donc jusqu'à 1500 euros en fonction de la perte du chiffre d'affaires. Et tous ceux qu'on a vus dans la rue pendant la deuxième partie du premier confinement, c'est les autres travailleurs, ceux qui sont en sous-location de compte, ceux qui sous-louent des comptes parce qu'ils sont mineurs, mais et surtout énormément de travailleurs sans papier, en fait. Et eux, cela va sans dire que en général, ceux qui leur sous-louent le compte, soit ils payent pas leurs cotisations, soit c'est même pas un compte qui est au nom du soi-disant propriétaire du compte, ce qui fait que obtenir des aides pour pouvoir rester chez soi éventuellement, parce que les conditions de travail n'étaient pas du tout celles d'une guerre contre un virus. Hein. On avait zéro équipement pour affronter cette première vague épidémique. Mais donc au bout de quelques semaines, quasiment les seuls qui sont restés à travailler dans la rue étaient des travailleurs sans papier et des mineurs. Et là où les plateformes ont dit qu'elles avaient organisé une livraison safe, sans contact, et qu'on avait soi-disant tous du gel hydroalcoolique et de quoi se laver les mains, etc. Enfin, c'était pas vrai. On n'avait pas de gants, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Personne n'en trouvait. Peu de livreurs en ont trouvé, quoi. Voilà un peu les conditions.
Et tu parles de sous-location de compte, mais peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce qui permet justement, en fait, en quoi ça consiste de louer un compte et pourquoi c'est des personnes sans papier ou des mineurs qui sous-louent un compte?
C'est un peu comme dans le salariat, mais plus facile, où parfois on a des travailleurs sans papier qui ont des contrats de travail, mais avec des alias. Là où c'est facilité dans les plateformes, parce qu'en fait, il suffit d'avoir un statut de micro-entrepreneur pour pouvoir travailler pour ces plateformes. Et il est vraiment assez simple. En tout cas, quand on est français ou de l'Union européenne, ou avec un droit de création de micro-entreprise pour les étrangers hors Union, il est assez facile de créer une micro-entreprise. Ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui vont créer des micro-entreprises en utilisant, parfois c'est des faux papiers, parfois c'est leur vraie identité, et des faux papiers, des vrais papiers, mais qui ont été volés à un moment donné, parce que ça, on demande peu d'informations pour créer une micro-entreprise. Et ces gens-là, en fait, donc deviennent propriétaires de comptes, parfois de plusieurs comptes, pas forcément juste en leur nom, comme je disais, et ils vont les louer. à une force de travail à qui l'État français ne reconnaît pas le droit de travail, mais qui vont bien, qui doivent continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, bah, faut gagner de l'argent. Il n'y a pas trop de secrets là-dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est que des travailleurs sans papier, des mineurs, ou parfois des gens qui ont été virés, comme moi, des plateformes, bah, vont sous-louer des comptes. Et c'est souvent un tarif assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre entre 20 et 40% du chiffre d'affaires déjà assez bas d'un livreur, de ce qu'il gagne sur le terrain. Certains vont le louer à 200 euros la semaine. Certains vont dire 200 euros la semaine, mais tu dois prendre mon scooter qui a 50 euros de plus la semaine. Et voilà. Et ce qui fait qu'on a des travailleurs qui sont 13, 14 heures sur un vélo, sur un scooter, en train de travailler pour réussir à gagner de quoi vivre. Voilà un peu ce qu'est la sous-location de compte aujourd'hui. C'est pas, j'en parle assez rapidement parce que c'est quelque chose de très très répandu maintenant. Dans pas mal de métropoles françaises, on évalue à au moins 50% le taux de travailleurs sans papier ou en sous-location de compte.
Et en plus, du coup, ça doit pas être simple. Du coup, quand on est un syndicat, enfin, de recenser ces personnes-là, enfin, comment vous essayez un peu de fédérer, ces personnes-là qui sont déjà dans une précarité extrême, mais en plus, vous pouvez encore moins les suivre parce que vous les croisez, mais ils peuvent changer d'une semaine à l'autre totalement.
Eh ben, figure-toi que c'est eux qui nous donnent des exemples assez, assez formidables d'organisation. Et d'organisation syndicale. C'est-à-dire qu'on va avoir, après le premier confinement justement, il y a la plateforme Frishti qui s'est débarrassée de manière assez choquante des livreurs sans papier qui avaient fait leur service pendant tout le confinement. Et d'ailleurs qui ont fait leur service même avant depuis leur création. Et là c'est les livreurs de la plateforme Frishti donc qui sont organisés et qui ont eux-mêmes fait des manifestations et qui ont demandé à faire valoir leurs droits. Ils ont travaillé en France et il y a eu une lutte qui a mené à une victoire partielle mais une victoire quand même de la régularisation de la moitié de ces travailleurs en grève selon des critères qui ont été donnés par la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Et depuis, donc, ils sont toujours, ces coursiers-là sont toujours mobilisés, vont probablement créer un syndicat, une coopérative de livraison. Et récemment, on a eu un exemple assez énorme aussi. On est allé, je suis allé voir à Limoges, donc, un groupe de livreurs guinéens, sans papier, mais en cours de régularisation via un accompagnement de la CGT, encore une fois. Et qui ont créé leur syndicat aussi à Limoges et ils sont déjà 25, ils sont déjà assez mobilisés. Le syndicat il a quelques semaines juste et ils ont déjà participé au mouvement de grève qu'on a initié vendredi 30 octobre et vendredi dernier. Donc il y a déjà beaucoup d'auto-organisation et ensuite ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent, parfois, comme ça a été le cas avec les Frishti ou avec ces conseillers de Limoges, peuvent demander un soutien d'un syndicat. Et donc ensuite, après, libre à eux de créer un syndicat derrière. Pour le moment, c'est ce qui se fait. Après, à Bordeaux, il n'y a pas ces plateformes-là qui ont viré d'un seul coup, mais il y a énormément de coursiers sans papier qui se rendent compte, en fait, de l'arnaque aussi. Ils se rendent compte qu'ils gagnent de moins en moins et ils se rendent compte que les plateformes pour lesquelles ils travaillent pourraient très bien les payer plus et donc on a posé des stands dans les endroits, en fait il y a des zones d'attente et elles sont souvent créées en fonction de la langue qui est parlée dans le syndicat on a des gens qui parlent arabe, qui parlent anglais, qui parlent espagnol, et on réussit à communiquer avec eux comme ça, quoi. Et au final, on a été très agréablement surpris de voir qu'à Bordeaux, la manifestation du vendredi 30, il y avait beaucoup de ce sans-papiers qui étaient dans un cadre où ils osaient le dire, quoi. Que, en gros, ils se louaient des comptes parce qu'ils n'avaient pas de papier. Et donc là, on sent bien qu'il y a une confiance qui commence à se faire au niveau de notre travail, du travail syndical qu'on mène, nous, à Bordeaux, depuis quelques années. Parce que c'est vrai que c'est une étape qui est assez compliquée à obtenir, en fait, la confiance. Tu peux pas juste arriver comme ça en disant « Salut, je suis là pour t'aider. Est-ce que tu es un sans-papier? Est-ce que tu souloues ton compte ?» Donc voilà, faut vraiment travailler sur le terrain pour qu'il y ait moins de crainte.
Ok, bah ouais, j'imagine que ça doit être un travail de longue haleine, c'est incroyable. Et tu parlais des grèves de la semaine dernière, enfin des deux dernières semaines, est-ce que tu peux nous en parler plus? Enfin, comment vous arrivez à... enfin, on n'entend pas beaucoup parler de grève en ces temps de confinement, c'est plutôt... on parle plutôt de déprime et de tout ça. c'est chouette que finalement... Enfin, chouette, c'est bien qu'il y ait des grèves. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Ben ouais, plaisir. Alors, il y a plusieurs syndicats qui sont formés dans plusieurs villes, qui sont Nantes, Lyon... Bordeaux, donc Toulouse et maintenant Limoges, et il y avait un peu Dijon aussi, mais c'est un peu en dormance. Et on a décidé de faire un appel national pour faire une grève. C'était pas lié au confinement, c'était un peu lié par contre, enfin ce qui est pas lié au deuxième confinement, on l'avait pas encore imaginé quand on avait proposé la date du 30. Et on avait décidé de faire ça parce que en gros il y a eu la Cour de cassation qui a clairement explicité le fait que les travailleurs de plateforme étaient des salariés déguisés et qu'il allait falloir agir concrètement là-dessus. Puisque nous, ce qu'on dit au niveau du syndicat, c'est que si on est des salariés déguisés, on va pas tous devoir passer un par un par les prud'hommes et attendre 2-3 ans pour pouvoir le prouver. Il faut qu'il y ait une action politique. Et l'action politique qui se passe, enfin qui est menée par la majorité à l'Assemblée et par le gouvernement, ben ce sont ils essayent de faire passer des lois pour ce qu'ils appellent sécuriser le modèle des plateformes. Et il était prévu qu'à la fin du mois d'octobre, il y ait un rapport qui soit rendu au gouvernement. Et nous, de ce qu'on avait suivi, c'est qu'il allait plutôt proposer un tiers statut, ou en tout cas donner les moyens juridiques aux plateformes de nous empêcher d'aller au prud'homme, faire valoir notre droit aux salariés, prouver qu'on est des salariés déguisés. Et donc, on avait préparé ces grèves en réponse à ça, en fait, à ces lois. Et au final, quand on a appris qu'il y avait le confinement, on a décidé de ne pas annuler, parce que déjà, d'une, Macron, dans son allocution, il fait de la publicité pour la livraison de repas à domicile, ça nous a clairement énervé. Et que s'il y a droit syndical. Et donc, le droit syndical, c'est aussi le droit des grèves. Et donc, on a décidé de garder cette grève et de garder aussi la manifestation, parce que pour nous c'est un peu compliqué de faire grève sans faire de manifestation, parce qu'en fait les plateformes émettent des primes les soirs où on fait des grèves pour essayer de ramener des gens qui voulaient pas forcément travailler à la base. C'est comme ça qu'ils brisent nos grèves. Ils mettent une prime à 2,50 de plus à livraison, ce qui est énorme, et comme ça ils se disent qu'il y aura assez de livreurs pour remplacer ceux qui font grève. Et donc le vendredi 30 à Toulouse, à Bordeaux, on était 100 à Toulouse, 100 à Bordeaux, donc ça a beaucoup fonctionné. On a fait notre manifestation, on est allé bloquer des Burger King, des McDonald's, et on a posé comme revendication, voilà, le fait qu'on voulait déjà directement des meilleures conditions de travail, ça voulait dire avoir une meilleure rémunération, être payé pendant les temps d'attente au restaurant, parce que pour le moment on est payé à la tâche, sans prise en compte des temps d'attente. Et puis, bien entendu, avoir accès à la protection sociale auquel tous les travailleurs subordonnés ont le droit. Et pour faire court, voilà ce qu'étaient nos revendications.
Ok, merci, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. On va juste passer, enfin, chers auditeurs et chères auditrices, en fait, comme chaque soir, on vous souhaite le meilleur confinement possible. Mais c'est quand même une situation assez particulière qui peut entraîner des difficultés liées à l'isolement, chez vous. Et on va donc vous diffuser une brève capsule abordant le sujet de la de l'isolement en cette période de confinement en espérant que ça vous serve.
Coincé entre un climat social anxiogène et les contraintes imposées par la crise sanitaire, la santé mentale en prend un coup. Dans ces moments particulièrement difficiles, il est important de ne pas rester seul, avec ses angoisses, ses doutes et des idées noires. Si vous vous sentez isolé et coupé de tout, des lignes d'écoute anonymes et gratuites proposent un accueil téléphonique 24 heures sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. En Belgique, Téléaccueil est joignable au 107. Et en Suisse, pour la main tendue, appelez le 143. Ces lignes d'écoute proposent également une messagerie, ainsi que des permanences de messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, cherchez SOS Amitié, en Belgique, Téléaccueil, et en Suisse, la main tendue.
De retour sur Radio Pirate, on pirate toujours votre confinement, comme tous les soirs à 21h, depuis maintenant quelques jours. Cette capsule voilà, rappelle effectivement des numéros et des liens importants qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas rester seul. Et on prend les moyens qu'on a, mais avec les numéros, les liens qu'on vous envoie, on espère que ça servira. Et en tout cas, vous inquiétez pas, Radio Pirate est toujours là pour vous accompagner pendant ce confinement. Ce soir, on aborde du coup la situation des livreurs et des livreuses à vélo sur les plateformes type Deliveroo, etc. On est toujours avec Arthur, notre invité, du coup, avec qui on a commencé une interview très intéressante tout à l'heure. Du coup, Arthur, on aimerait aborder le sujet un peu, t'en parlais tout à l'heure, le sujet des lois qui encadrent ce modèle de plateforme, donc avec notamment le modèle le plus plébiscité, qui est le modèle de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneuriat. Donc, il touche pas que les livreurs et les livreuses, il est évidemment pas que négatif pour les livreurs et les livreuses, étant donné que l'État, du coup, perd des cotisations, du coup, en termes de cotisations patronales qui ne sont pas payées, il n'y a pas de SMIC. Et comment dire, est-ce que, du coup, enfin, comment essayer de poser la question, enfin, quel impact ça a techniquement le fait de privilégier un statut auto-entrepreneurial plutôt qu'un statut salarial clair avec les protections qu'on connaît en général. Est-ce que tu pourrais repréciser un petit peu plus la nature de ce statut et comment ça imbrique la vie en fait des livreurs et des livreuses?
Alors, ce qui va beaucoup changer avec le statut de micro-entrepreneur qu'on nous impose, hein, c'est en général les gens qui commencent dans une plateforme n'avaient pas leur statut de micro-entrepreneur avant de commencer à s'inscrire dans une plateforme. Les plateformes indiquent comment s'inscrire en tant que micro-entrepreneur. La différence, en fait, c'est, comme tu le disais, ça va être que les plateformes, elles vont pas payer leur part des cotisations sociales, celles qui sont appelées aussi cotisations patronales pour celles qui manquent. Et donc, effectivement, elles vont manquer à ce cercle vertueux des protections sociales qui fonctionnent et qui sont financées par les cotisations des travailleurs. Et donc ça, c'est une partie de l'argent du travail des livreurs qui est volé d'une certaine manière par les plateformes. Là où les plateformes s'en sortent bien aussi, quand elles nous obligent à prendre le statut de micro-entrepreneur, c'est que elles ont pu assumer leur responsabilité d'employeur. Et donc on a des plateformes qui vont pouvoir en fait avoir juste un lien commercial avec leurs travailleurs. Et ça, un lien commercial, c'est vachement moins protecteur qu'un contrat de travail. Et ça va leur permettre de pouvoir nous virer quand on a un peu trop une grande gueule. Ça va leur permettre de nous payer à la tâche, là où c'est interdit dans le salariat. Et ça va leur permettre, en cas de baisse d'activité, comme c'est le cas pendant le confinement, de pas avoir le nombre de livreurs va s'auto-réguler, c'est-à-dire que en fait tant que eux ils ont un nombre de commandes et vu qu'ils payent à la tâche parce qu'on est des micro-entrepreneurs, eux ils vont rien faire quoi. Ils vont juste nous laisser attendre sur un banc et pas nous payer tant qu'on attend en espérant avoir une livraison. Donc voilà un peu tout ce que ça va changer. Donc pour nous ça veut dire conditions de travail qui peuvent être tirées vers le bas, vers largement de ça, de ce que le droit du travail permet. Et pourtant, dans la réalité, on est très probablement des salariés. C'est en tout cas ce que la Cour de cassation a déclaré à deux reprises, Donc une fois pour un livreur de la plateforme Take It Easy et une autre fois pour un chauffeur de la plateforme Uber. Et sur le fait que il y a fourniture en fait de travail, il y a un paiement donc d'une rémunération et il y a l'existence d'un lien de subordination. Alors nous, le lien de subordination, il est un peu plus complexe, il est un peu plus caché, on va dire, pour des juges au prud'homme ou dans des cours d'appel, parce qu'il est caché par un algorithme. Et j'ai l'impression que les cours de justice ont un peu plus de mal à comprendre que ces algorithmes ne sont que la traduction des ordres de patronaux, mais avec des équations, quoi. Et nous, on le voit sur le terrain, notre téléphone nous dit comment faire notre travail, nous indique les trajets qu'il faut emprunter. De manière automatique, on peut avoir des menaces qui peuvent être faites, genre, si vous refusez tant de commandes, c'est à quoi de vous connecter, peut-être vous devriez vous déconnecter, ou vous pouvez emprunter peut-être pas le chemin idéal, etc. Et parfois, on reçoit des appels pour nous dire qu'on fait pas forcément très bien notre travail. C'est toujours un peu alambiqué la manière de nous donner des ordres, mais à la fin, nous, on le prend toujours clairement comme un ordre. Et on sent bien qu'on est très, très dépendant de ces plateformes et qu'on doit obéir même aux ordres qui sont informels et qu'on suppose exister dans l'algorithme. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de livreurs sur le terrain qui se demandent si le fait de refuser des commandes, ça fait pas que ça fait baisser le prix à la livraison par rapport à un autre livreur qui les accepte toutes. Ou si ça leur donne pas juste les plus mauvaises livraisons. On le sait pas. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme. C'est caché. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui répondent dans ce qu'on appelle un panoptique algorithmique, où en fait on va obéir à des ordres qu'on suppute sans vraiment le savoir, et on va s'auto-subordonner dans le doute, quoi. Donc voilà un peu tout ce que ça peut amener, sachant que l'algorithme il est contrôlé par personne aujourd'hui. Les gens qui les font et qui sont des data scientists aussi, qui peuvent s'occuper de faire ces genres d'algorithmes ou alors de traiter les données reçues pour faire du management derrière, en général, dans leurs cours, ils n'ont pas trop de notions de droit du travail, et de sécurité au travail, etc. Donc ça pose quand même de sacrés problèmes.
Ok, yes, merci beaucoup. Et du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, notamment, voilà, sur tu parlais des arrêts de la cour de cassation et tout par rapport à différentes plateformes. Du coup, ouais, en France et même ailleurs, en fait, les tribunaux penchent en général, alors, comme tu disais, ça dépend, c'est très compliqué pour des juges, mais quand même, il y a quand même souvent des jugements en faveur d'une requalification en salarié, une reconnaissance du lien de subordination. Reconnaissance du lien de subordination, donc ça arrive en France, ça arrive aussi en Espagne. Est-ce que tu penses que c'est un moyen pertinent de lutte d'aller devant les tribunaux, de traîner les plateformes en justice? Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière d'arriver vers une requalification plus générale, ou alors c'est une perte d'énergie Comment tu vois la chose de ton point de vue?
Nous, on va prendre ce qu'on peut prendre déjà. C'est que aujourd'hui, les seuls endroits officiels qui nous ont reconnus, ce lien de subordination, donc cette relation salariale avec les plateformes, c'est la justice. Pour le moment, elle est niée toujours par les plateformes, par le gouvernement et la majorité à l'Assemblée. Aller en justice, ça nous permet de continuer de faire peur aux plateformes. C'est un outil de pression. Donc nous, en fait, on leur dit aux plateformes que il faut qu'elles changent leur manière de manager ce qu'ils appellent leur flotte de travailleurs pour enlever toute cette subordination. Mais on n'en fait pas. C'est-à-dire que la justice, on peut pas tout miser dessus, puisque moi, par exemple, je suis en procès contre des libéraux et ça fait déjà 3 ans, quoi. Et on peut pas dire à tous les livreurs qui sont dans une précarité grandissante d'aller faire valoir leurs droits dans un tribunal, sachant que ça va très souvent passer par des prud'hommes qui sont encore un peu timides pour qualifier tout de suite, ce qui fait que ça va ensuite passer dans une cour d'appel Et c'est parfois encore débouté. Même si on a confiance sur le fait que ça peut changer, il y a un autre fait qui nous indique que c'est juste un outil de lutte, mais que c'est pas l'outil de lutte qu'on va prendre principalement. C'est le fait que maintenant au Prud'homme, je vous dis toujours ce terme, ça m'énerve. C'est le fait que en fait pour saisir les prud'hommes sur un souci qu'il y a eu dans l'exercice de son travail, faut que ce souci ait moins de 2 ans en fait. Et donc je sais pas pourquoi je bug sur ce mot. Mais donc il y a ça, ce qui fait qu'en fait nous quand on gagne un procès et qui pourrait se motiver d'autres livreurs à réaliser le même procès, s'ils ont été virés il y a plus de 2 ans, c'est déjà trop tard pour eux. Et les conditions de travail changent régulièrement par les plateformes pour brouiller les pistes. Par exemple, Deliveroo a perdu au Prud'homme à Paris un procès, et ils ont dit oui, mais depuis on a complètement changé les règles à Deliveroo. Donc voilà, la justice, on y croit, puisque c'est la Cour de cassation, donc c'est la plus haute cour de justice française qui a quand même dit que c'était que un chauffeur Uber et un coursier de Take It Easy étaient des salariés. Mais nous, c'est pas là où on vise. Nous, ce qu'on veut faire, c'est accentuer le rapport de force, continuer de faire des grèves, être aussi évidemment présent en cour de justice, mais faire une pression politique pour essayer de faire en sorte que déjà le gouvernement ou les députés ne passent pas des lois qui aillent protéger les plateformes ad vitam aeternam. Et on a déjà réussi avec le travail de nos collègues VTC et ensemble à faire annuler 2 lois que voulait passer le gouvernement pour protéger les plateformes. Donc voilà, nous, en tout cas, dans nos syndicats, on est plus sur un rapport de force qu'on souhaite accentuer. Et voilà, juste, je voulais parler de ce qui s'est passé aux États-Unis où il y a eu donc une loi qui a été posée qui forçait normalement les plateformes de chauffeurs à salarier leurs travailleurs. Et aux États-Unis, on s'est dit, nous, que c'était une victoire énorme, en fait. Et on s'est aperçu que le capitalisme réussissait toujours à trouver des échappatoires. Ils ont payé pour pouvoir faire un référendum pour annuler la loi qui est passée. Et ce référendum, plusieurs plateformes ont mis 200 millions sur la table. Donc, pour éviter que cette loi passe juste en Californie. Et ça, c'est un autre élément qui me fait dire que essayer de gagner en justice, mais gagner a posteriori, parce que souvent on parle de livreurs qui ont déjà perdu leur travail, c'est juste une perte financière quasi négligeable pour ces plateformes. Elles sont très probablement à fond pour ça. Donc voilà un peu notre position dessus. On y va, bien entendu. Et tous les livreurs qui veulent se faire réqualifier et passer par nos syndicats pour se faire aider seront évidemment bien accueillis.
Yes, merci beaucoup. Je tiens juste à prendre 2 secondes pour saluer toutes les personnes qui viennent d'arriver en raid sur le Twitch. On me pose une remarque et une question dont juste je te fais part, Arthur. Old Century Pirate qui fait « J'arrive en plein dedans, mais j'ai vu qu'il y a des collectifs de livreurs qui se sont montés, genre Now Food, ça a l'air moins pire. » Je ne sais pas si tu connais ce collectif en particulier, mais c'est vrai que c'est ce dont on parlait à un moment. Et juste avant de te laisser d'être réagir là-dessus, si tu veux, une personne qui demande si tu es au CLAC, et du coup, je pense que je peux répondre que du coup, non, tu n'es pas au CLAC, tu es à la CGT et dans un autre collectif, non je... Toi, tu veux rebondir là-dessus?
Non, je ne suis pas au CLAP. Le CLAP, c'est Collectif des Livreurs Autonomes de Paris. Et donc, moi, je suis à Bordeaux, mais ça fait déjà quelques années. Tiens, Marlène, il faudrait que tu coupes, je pense, ton micro, parce que j'entends un petit bruit de fond.
Ah, pardon.
Super, merci. Et oui, donc, on travaille avec le CLAP dès qu'on peut sur ce qu'on peut faire quoi ensemble de toute façon. Et oui, je connais Now Food qui est une coopérative de livraison de repas qui a rejoint, il me semble, il y a pas très longtemps la fédération Copcycle. Donc une fédération qui regroupe des coopératives de livraison ou des entités qui sont menées à devenir des coopératives de livraison. Et à Bordeaux, donc moi, après avoir été viré de la plateforme Deliveroo, puis de Uber Eats, avec quelques collègues, on a décidé de monter une coopérative aussi, qui aujourd'hui s'appelle Coursier Bordelais et qui salarie 6 personnes. Et dans la fédération Copcycle, qui nous permet d'avoir un outil numérique pour faire de la logistique.
C'est hyper intéressant que tu reparles un peu de ta coopérative, parce que je me posais quelques questions un peu dessus. Déjà, je me demandais un peu en quoi ça change concrètement ta manière de travailler. Donc déjà, tu parlais du fait que les gens sont salariés, ce qui est déjà un premier grand changement. Mais du coup, comment ça influe votre manière de travailler? Et est-ce que tu peux aussi nous faire un petit retour si vous existiez pendant le premier confinement? Je sais pas trop. Si vous existiez pendant le premier confinement, est-ce que vous avez livré? Comment ça s'est passé? Comment ça continue un peu à se passer depuis? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce travail-là?
Alors, ça change pas mal de choses. Donc, on a dans la coopérative, on a les mêmes vélos à la base, les mêmes sacs à dos pour livrer. Mais clairement, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de travailler pour cette entreprise qu'on a créée nous-mêmes, qui est porteuse de valeurs. La première valeur, déjà, c'était de se créer contre l'uberisation, montrer qu'il y avait une alternative. Puisque, comme on en a parlé un peu depuis le début, ça pose beaucoup de problèmes de conditions de travail, de précarité, le fait qu'on nous oblige à être micro-entrepreneurs pour des plateformes capitalistes de travail. Donc là, nous, aujourd'hui, on travaille de manière complètement horizontale à Bordeaux. C'est-à-dire que toutes les semaines, en fait, c'est un collègue qui va prendre la tête de la boîte, on va dire, et qui va être sur le PC, qui va répondre aux mails des clients, des prospects, qui va faire la comptabilité, l'administratif. On a vraiment à cœur de former aussi. On a commencé à 3 en fait, et aujourd'hui on est 6, et on forme chaque personne qui rentre dans la coopérative pour avoir accès à tous les outils de gestion, de compréhension de l'entreprise aussi, pour que très très rapidement cette personne qui vient d'arriver puisse prendre des décisions de la même manière que ceux qui étaient là avant. Et donc ça passe par de la confiance. Nous, on a par exemple, pour pouvoir garder ce côté démocratique horizontal où tout le monde gère un petit peu l'administratif, etc., on a vraiment mis dans nos statuts qu'on souhaitait bloquer à 25 le nombre de coopérateurs, et que si il y avait d'autres gens qui... Ça prouverait que le marché est accueillant et que nous, on serait prêts à aider d'autres coopératives à se monter à Bordeaux. Il n'y aurait pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que ça va changer? C'est des livreurs qui gèrent une entreprise de livraison, ce qu'on appelle le dispatch, donc la logistique, et on la trouve beaucoup plus logique maintenant que c'est nous qui l'organisons. Ça prend beaucoup plus en compte les trajets qu'on fait, les trajets qu'on a déjà fait dans le matin par rapport aux livraisons qu'on va se donner l'après-midi. On prend en compte notre état de fatigue de nos collègues, on fait attention à la santé de chacun. On a des vacances aussi. Ça permet aussi de prendre des décisions, comme de se dire, tiens, on est pas trop mal là au niveau du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on s'augmente ou est-ce qu'on prend plus de vacances? Et là, ça nous permet de prendre ce genre de décision, de se dire, on va plutôt recruter quelqu'un et se donner plus de vacances et passer à 8 semaines. C'est le genre de trucs qui peuvent changer un petit peu. Du coup, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Marlène? Je suis pas sûr.
Il me reste un petit peu encore quelques questions, mais en gros, une dernière grande question, parce que tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Déjà, moi, je me demandais, tu peux répondre un peu dans l'ordre que tu veux, je me demandais déjà, pour concurrencer des plateformes, est-ce que vous avez votre logiciel, votre application à vous, comment ça fonctionne? Tu parlais également de coopérative. Est-ce que du coup ça change aussi le rapport que vos clients, clientes, ils ont avec vous? Genre, est-ce qu'ils font juste des commandes et puis c'est fini, ou il y a un rapport un peu plus coopérant aussi à ce niveau-là? Et plus largement, qu'est-ce que vous livrez en gros, quoi? Est-ce que vous livrez que de la nourriture un peu à la Deliveroo? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Nous, on n'avait pas l'intention de créer une entreprise de marché. dans le sens, notre but, c'est pas de devenir hégémonique sur un marché particulier. Donc, on s'est pas dit qu'on allait se limiter à ce qu'on appelle la food tech. Et donc, on livre un peu de tout dans ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc, la dernière livraison qui s'effectue dans le centre-ville. Et donc, on a commencé pas mal avec des prothèses dentaires, des bouquets de fleurs, des échantillons pour des laboratoires, des documents, du vin, de la bière, à manger aussi, hein, des repas, des traiteurs, des paniers repas, tout un tas de trucs, du truc au plus classique, des trucs au plus bizarres. Mais voilà, on livre de tout. Là où on a rejoint donc la fédération Copcycle, qui nous permet d'avoir un outil numérique qui nous met au niveau des plateformes. C'est-à-dire que là, si vous allez voir sur toutes les orgas de la fédération qui sont dans Copcycle, vous allez voir qu'on peut prendre déjà des livraisons sur notre site internet, et nous, ça va s'afficher sur notre application. Si c'est via un restaurateur, ben, le restaurateur, il aura son application aussi. Ça marche un peu de la même manière. Sauf que on est sur du dispatch vivant, on va dire, du dispatch humain. Donc, ce qui nous permet de garder cette prise en compte, justement, de l'état de fatigue de ses collègues, etc. Et donc, ça change pas mal. Sur les données, on les garde pas, on les traite pas, on n'en fait rien. Toute cette question de protection de ces données et de qui est propriétaire de ces données, ben, on a répondu largement à cette question. Et on arrive à être concurrentiel avec les plateformes, ouais. Parce que, justement, en manière logistique, les plateformes, elles sont très, 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 très cons, en fait. Elles font, c'est un livreur, une livraison. Tac. Et en gros, eux, ils se permettent de faire ça parce qu'on est payé à la tâche quand on travaille pour les plateformes. En fait, ils s'en foutent d'optimiser. Mais ils s'en foutent ou ils savent pas le faire. Ou c'est pas leur objectif. Ils préfèrent baisser le tarif la rémunération des livreurs. Là où nous, on va mieux s'en sortir, c'est que justement, on réfléchit mieux. On fait des tournées, on va essayer d'optimiser les livraisons et on va essayer de faire comprendre à nos clients que la livraison une demi-heure, c'est en aucun cas la panacée, c'est en aucun cas l'unique argument pour parler d'une logistique réussie. Et donc là où nous, on va justement pouvoir tempérer, temporiser, on va réussir à mieux s'en sortir et à offrir un service de meilleure qualité. Juste sur l'organisation du travail, puisque il y a des gens très très compétents et qui travaillent dans les plateformes de livraison comme Uber Deliveroo et qui aimeraient bien voir la logistique devenir un peu plus intelligente dans ces plateformes-là. Et ce qui fait, il y a aussi le fait que nous, on prend pas de pourcentage sur ce qu'on livre quand on travaille avec les restaurateurs, parce qu'on considère que la valeur du plat qu'on livre, elle est en aucun cas corrélée avec nous, la qualité de notre service de livraison. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de restaurants, notamment ceux qui ont des bons produits locaux, qui vont avoir un vrai travail sur les repas, qui se retrouvent plus dans cette démarche, parce que déjà, elle est moins chère que pour les plateformes qui prennent 30% du panier repas. Donc, on parle beaucoup des plateformes de livraison de repas, mais finalement, on se rend compte qu'il y a, quand on crée ce genre d'entreprise, qu'il y a tout un tas d'autres plateformes qui nous sont concurrentes. You2You, Hyper, Stuart, et d'autres plateformes de livraison qui sont peut-être plus sur le dernier kilomètre, mais qui utilisent le même stratagème du micro-entrepreneur pour ne pas assumer sa responsabilité d'employeur, ne pas payer des cotisations, ou payer à la tâche, donc moins. Et c'est vrai que ces plateformes, on en parle un peu moins. Pourtant, elles sont tout aussi attaquables. Mais on leur tient tête, au final. Tu vois, Olvo, aujourd'hui, ils sont 30 salariés. Olvo, c'est à Paris. Nous ici, on est 6. À Nantes, ils sont 6 sur Confinanté. Et à NowFood, je sais pas combien ils sont, mais ça a l'air de très bien marcher. Il y a des coopératives qui sont en train de se monter à Rennes. Il y a une coopérative qui s'est montée la semaine dernière pour tous les Strasbourgeois et Strasbourgeoises qui nous écoutent. Une coopérative qui s'appelle le Kouglof qui s'est montée la semaine dernière et qui a fait un départ de ouf, quoi. Ils ont eu plein de livraisons tout de suite et ils ont eu plein de commentaires en disant qu'il y a plein de gens qui attendaient d'enfin pouvoir se faire livrer avec une entreprise socialement juste et qui émet pas de CO2 quoi. Donc il y a vraiment une demande, il y a possibilité de se placer sur un marché, parce que je pense que le modèle coopératif, oui, ça permet une meilleure réflexion de tous les savoirs qu'il y a dans l'entreprise, que la plupart des autres modèles d'entreprise, qui sont plutôt axés pyramidal et je dois faire confiance à mon supérieur. Et là, le fait que nous, on ait plus d'échanges, je pense que ça nous donne aussi un avantage comparatif sur le fait qu'on a une meilleure maîtrise de notre entreprise. Quand ça se passe bien, en tout cas. Et c'est le cas dans la plupart des coopératives du réseau pour le moment, j'ai l'impression. Voilà un peu comment on s'en sort. Et c'est pas irréalisable. Après, qu'on soit clair, nous, dire qu'on est la solution à l'uberisation, ça serait quand même s'avancer un peu. On montre qu'il y a une alternative. On n'aura jamais l'argent de beurre, de la finance. On n'aura jamais cet argent-là, l'argent du capitalisme, quoi, qui a été volé à des travailleurs à la base. On n'aura jamais cet argent pour investir des millions, des dizaines de millions pour exploser d'un coup et lutter réellement contre ces plateformes. Donc nous, on appelle le monde politique à faire son taf, maintenant qu'on a montré qu'on pouvait créer de l'emploi sans que l'emploi soit précaire.
Merci beaucoup pour cette réponse, Arthur. J'essaie un petit peu de voir les quelques messages qu'il y a sur le chat de Twitch. Je ne pourrais clairement pas un peu poser toutes les questions qui se sont posées, j'en suis bien navré, mais je vais essayer un petit peu de résumer. Déjà dans un premier temps, enfin, je te dis un peu voilà, ce qui s'est dit sur le chat, tu réponds un peu à ce que tu veux, Arthur. Déjà, parce que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, déjà, on demande un petit peu comment ça se passe avec les restaurateurs qui sont plutôt habitués à travailler, travailler, c'est un grand mot, mais à travailler avec Uber, Deliveroo, genre de trucs. Et du coup, vous, en fait, vous avez fait comment? Genre, vous êtes arrivé, vous avez dit, on est une nouvelle livraison, une nouvelle plateforme de livraison. Est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? Également, on demande si vous vous fournissez chez Amazon. Bon, voilà, tu y répondras bien. ce que tu veux. Et aussi, on demande, dernière question, si tu sais quelque chose, s'il y a quelque chose qui se passe comme ton initiative, comme d'autres initiatives de coop à sa gueule, qui se passe sur Rennes. Voilà.
Alors, comment ça se passe avec les restaurateurs? En gros, commercialement, on s'est rendu compte qu'il suffisait pas de dire qu'on avait des véhicules propres, donc des vélos, et qu'on se payait bien pour que les gens acceptent de travailler avec nous. Et il a fallu aller au-delà. Il faut montrer que le service va fonctionner de manière qualitative et qu'on va répondre aux besoins. C'est-à-dire, faut vraiment qu'on ait un projet quand même qui fonctionne. On nous demande de livrer. C'est ça le premier truc, quoi. Après, on va pas se mentir, quand on s'est monté, on a eu beaucoup de médias qui se sont posés la question de ce qu'on faisait, et on a eu une belle couverture médiatique là-dessus. Ce qui nous a fait, c'est venu aux oreilles de certains restaurateurs qui voulaient eux absolument pas travailler avec des plateformes de livraison comme Uber et Deliveroo, et donc qui s'empêchaient de le faire. Il y a aussi d'autres restaurateurs qui se retrouvaient plus dans le fait que nous, on est un prix fixe et pas forcément et pas avec un pourcentage de ce qu'ils réalisent. Et il y a aussi pas mal de restaurateurs qui se posent la question, tout simplement parce que ils en ont marre des plateformes. C'est-à-dire je parle de qualité, quoi. En fait, ils ont du mal à gérer l'outil. C'est parfois un peu de leur faute, c'est parfois un peu de la faute de la plateforme, mais en gros, parfois il y a trop de commandes qui arrivent d'un seul coup. Et il y a énormément de livreurs qui attendent devant, et leurs clients finaux, eux, sont pas satisfaits parce que souvent il y a tellement un bordel que les commandes sont pas données au bon endroit ou en tout cas dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à des plats chauds. Il y a aussi le fait que quand ils ont des problèmes techniques, le service après-vente des plateformes en général, il est pas très très bon. Donc voilà, on se retrouve un petit peu là-dedans. Après, là où on va avoir du mal à battre les plateformes, c'est sur la communication. C'est que travailler avec une plateforme comme Uber, Deliveroo et respecter leurs règles, respecter leurs conditions de contrat, c'est aussi s'offrir une page de publicité, en vrai, puisque les plateformes Deliveroo et Uber Eats sont vachement plus visitées que Copcycle, en tout cas pour le moment. Et donc, on a ça à combattre, et que les plateformes font souvent passer des contrats d'exclusivité en échange d'une baisse du pourcentage pris sur les livraisons. Et ce qui fait que pour pas mal de restaurants encore, ça devient un peu compliqué de passer ailleurs. Est-ce qu'on se fournit chez Amazon ? Non. Après, c'est toujours un peu compliqué de voir où se trouvent toutes les tentacules d'Amazon, notamment quand tu te fais livrer les produits. Ça arrive parfois que tu te retrouves sur une plateforme qui est hébergée par Amazon, ou dont les données logistiques sont hébergées sur Amazon. Mais en tout cas, nous, on commande pas sur Amazon. Nos vélos, en général, on les achète chez un gars du coin, quoi. Une boutique à vélo du coin qui nous avait hébergé quand on avait commencé, qu'on n'avait pas de locaux. Et on achète la plupart des pièces là-bas. Sur Rennes, on est en contact avec des gens à Rennes en ce moment. Après, ça peut prendre quelques temps pour monter une coopérative, le temps de faire tout le travail de monter la coop, de trouver des tarifs, etc. Mais je crois pas, parce que moi je suis en contact avec des gens de Rennes, mais je crois pas qu'il y en ait déjà, sinon ils auraient pas demandé. Je t'apprenne Copcycle, ce que je suis en train de faire, et je crois pas, à moins que ça soit tout en vélo. Bref, je regarde. Parce qu'il y a beaucoup de coopératives qui se montent et c'est un peu difficile à suivre. Et surtout que ça se lance un peu au Canada, ça se lance en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. C'est un projet, même si les modèles coopérativistes ou même les modèles des plateformes comme Uber est un peu différent selon les pays. Il y a un vrai engouement international sur la création de coopératives de livraison qui est en train de se faire.
Mais du coup, je pense, Arthur, on va pouvoir dire aux gens d'aller regarder directement sur le site de Copcycle. Ce sera peut-être un peu plus simple. Je suis désolé, il est 22h. Il ne faudra pas non plus qu'on dépasse un peu trop notre temps habituel. Je rappelle juste que du coup, tu es coursier, livreur dans une coopérative à Bordeaux qui s'appelle Coursier Bordelais, du coup sur coursier au pluriel bordelais.fr. Donc, voilà, les gens sur Bordeaux et alentour, n'hésitez pas à commander là-dessus plutôt que sur Deliveroo. Merci à toi, Arthur, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment hyper intéressant. Et maintenant, je laisse la main à Circé, en fait, pour finir cette émission.
Merci encore, Arthur. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices. Merci au Red du Jules qui nous a donné un bon petit coup de main. C'était vraiment très intéressant de nous avoir éclairé sur la situation des livreurs que tout le monde a l'impression en tout cas de voir, mais pas forcément de connaître et de comprendre. Vous pourrez retrouver évidemment cet épisode sur les plateformes de podcast ou sur YouTube ou sur Twitch dès demain. Vous pourrez retrouver aussi la liste des coopératives de livraison comme les coursiers bordelais sur Copcycle.com. La prochaine fois que vous avez envie de vous faire livrer, par exemple. Radio Pirate revient dès demain avec une émission sur les handicaps psychologiques et le confinement. Et mercredi, on abordera la précarité étudiante et une antenne libre sera mise en place. N'hésitez pas à contacter Radio Pirate dans ce chat, sur Twitter, Instagram ou par mail. Radio Pirate FR, tout attaché, @protonmail.com. pour venir parler de comment, en tant qu'étudiant ou étudiante, vous vivez ce confinement. Encore merci à Arthur, à Marlène, à Dinosaure à la Technique, qui nous a bien aidé, et aux modérateurs et modératrices. On vous laisse sur ce remix de Solidarity Forever par les Toast Tomatoes.
To the wreckers, blood shall run. To the wreckers, blood shall run. To the wreckers, blood shall run. Taken on toward millions. Taken on toward millions. We can break their haughty power. Taken on toward millions. Taken on toward millions. We can break their haughty power.